Les dits du foyer.
Le foyer ?
Le foyer ?
Le foyer rural de Florac, bien entendu.
Un mercredi sur deux, à 10h, sur Radio Bartas.
Vous entendrez son histoire, ses partenaires, des reportages sur ses activités, sur le centre de loisirs, sur les salariés, et vous verrez bien. Bonjour. Pour cette seconde émission des Dits du foyer, je voudrais vous parler de l'histoire des foyers ruraux, en général, parce que cela sous-tend aussi notre foyer rural. Donc, l'histoire des foyers ruraux s'inscrit dans l'histoire nationale. Et cette histoire, elle débute dans les années 1930 avec François Tanguy Prigent, qui était fils d'une famille modeste de cultivateurs du Nord Finistère et qui devient à 26 ans maire de sa commune. Sa commune, c'était Saint-Jean-du-Doigt. Puis, il devient l'année suivante député du Finistère. Il défend les petits cultivateurs. Évadé pendant la guerre, il rejoint le réseau de résistance Libé Nord. Et après la libération, le général de Gaulle le nomme ministre de l'Agriculture. Alors si je vous parle de cet homme un peu exceptionnel, c'est qu'il fait adopter un projet de loi qui prévoit la création de foyers dans les communes rurales. C'est donc le précurseur des structures de loisirs et de culture dans l'ensemble des communes rurales. Le 13 septembre 1945, l'existence des foyers ruraux devient officielle. Et si depuis 1946 les foyers ruraux ont beaucoup changé, ils ont gardé quand même le même esprit et la même finalité. Alors en 1946, on compte environ 130 foyers paysans et la même année est créée la Fédération nationale des foyers ruraux, autrement dit la FNMR. Alors le rôle de ces foyers est alors double. À la sortie de la guerre, il faut nourrir la population qui est importante. La faim, les tickets de rationnement dureront jusqu'en 1949. Et donc il faut moderniser l'agriculture pour arriver à l'autonomie alimentaire. Donc ça c'est le premier rôle des foyers ruraux. Et puis le deuxième rôle c'est quand même la culture en milieu rural et la formation agricole. Les foyers ruraux au départ ont un grand rôle dans la formation agricole. Mais en 1959, les foyers ruraux abandonnent la formation agricole et se recentrent sur une stratégie culturelle autour des 3 D. Délassement, divertissement, développement. C'est tout un programme. Je passe sur l'apparition de la société de consommation et de la culture de masse, tout le monde connaît. Et alors, après 68, la Fédération nationale des foyers ruraux vit une période d'intense développement et aussi elle se structure en fédération départementale, nous en avons une en Lozère, et en union régionale. Plusieurs congrès importants suivront. À partir de 1970, le monde rural entre en profonde mutation et devient très minoritaire sur le plan démographique, ce qui n'était pas aux sorties de la guerre. Les états généraux du mouvement des foyers ruraux ont alors pour objectif de permettre à chacun d'analyser ses pratiques pour redéfinir le rôle des associations dans le développement des communes rurales. Alors, le mouvement se professionnalise et le politique, c'est-à-dire les bénévoles, se sépare du technique, l'animation. Aidé en cela par la création, en 1964, du Fonds JEP. Ça, c'est très important pour les foyers ruraux, encore maintenant. C'est le Fonds pour la jeunesse et l'éducation populaire, puisque ce fonds existe toujours et que, par exemple, à Florac, le poste de Clément est en partie financé par ce fonds JEP. Alors, en effet, à partir de 1979, la Fédération nationale peut bénéficier des postes fonds JEP, ainsi que ses structures adhérentes, ce qui a entraîné d'ailleurs l'adhésion des petites associations au mouvement des foyers ruraux, puisqu'ils ont bénéficié eux aussi du fonds JEP. Ces petites associations augmentent beaucoup et en nombre. Alors, en 2006, la Fédération nationale perd plus de la moitié de ses financements publics sans préavis ni justification. Clouc, comme ça en été, tout d'un coup ça a disparu. Et en 2008, les subventions du ministère de l'Agriculture sont définitivement supprimées. Donc la Fédération recentre ses activités et devient en juin 2010 la Confédération nationale des foyers ruraux, qui dure toujours, ce qui entraîne la séparation avec le sport en milieu rural, la FNSMR, la Fédération nationale du sport en milieu rural, qui se sépare des foyers ruraux en 2011, l'année suivante. Ah, bon, on va respirer un peu. Je vous propose un tout petit intermède musical avant de parler des foyers ruraux d'aujourd'hui. Cet intermède, c'est Bobby Lapointe.
Petit homme qui vivait d'espoir, rencontra sur la butte un soir, femme, enfant, de grande beauté, fille, fleur aux souliers crottés. Aussitôt, son cœur a bondi, s'est senti l'âme d'un bandit. Y avait du bonheur à ravir, à une fille belle à ravir. L'aborder lui a dit, bonsoir, je suis l'homme le plus riche d'espoir. J'en ai trop, j'en ai bien pour deux, et de vous je suis amoureux. J'ai l'espoir de toujours vous voir, j'ai l'espoir bientôt vous avoir. J'ai l'espoir de mettre à vos pieds les richesses du monde entier. Appris ses plus jolis espoirs, les a mis dans un grand mouchoir. À la belle il les a donnés, mais la belle les a piétinés. Elle a dit le truc de l'espoir, on me l'a déjà fait, pas d'histoire. Offre-moi des réalités, sinon sur moi faut pas compter. Petit homme qui vivait d'espoir, a pleuré dans son grand mouchoir. A pleuré tout ce qu'il savait et aussi ce qu'il ignorait. Et monté sur la tour Eiffel, il s'était lancé vers le ciel. Et retombé sur la chaussée, son sang en tout éclaboussé. Les passants de sang tout taché sont allés se faire détacher. Du moment qu'il y a des teinturiers, faut bien les faire retravailler.
Alors voici quelques points phares de la vie des foyers ruraux actuellement. D'abord, en 2016, la Fédération nationale a eu 70 ans. En fait, la Confédération nationale, mais bon, c'est le même mouvement. Alors c'est une vieille dame très verte, si l'on peut dire. Pour fêter dignement cet anniversaire, un village éphémère s'est créé à Grand Village Plage, c'est sur l'île de Léron. Ose ton village, c'était le slogan, c'est toujours le slogan un peu. Sa création a été le fruit de plusieurs chantiers de réflexion dans diverses régions de France. Par exemple, de novembre 2015 à janvier 2016, 5 universités rurales itinérantes ont travaillé autour de 3 axes. D'abord l'humain, puis les structures, les territoires, et enfin l'éducation populaire, les valeurs. Le village éphémère a permis à un groupement de personnes de vivre ensemble pendant une semaine, de partager des projets de territoire qui se transforment en boutiques d'initiatives, de puiser des informations, des idées, etc. Les foyers ruraux s'inscrivent dans une perspective d'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle couramment l'ESS. Le but n'est pas de privatiser d'éventuels bénéfices, mais de mettre la solidarité en avant de leurs valeurs. Deux optiques se font jour, soit animer un village mais sans contribuer au développement local, ou bien explorer d'autres voies que celles de l'économie dominante. Les réflexions continuent à ce sujet. Alors, un autre domaine très important pour les foyers ruraux, c'est le conte. Le conte qu'on raconte, hein, pas le conte avec la couronne. La Lozère le vit d'ailleurs tous les ans en février avec le festival Contes et Rencontres. Le conte est toute une histoire pour les foyers ruraux qui se développe dans les années 70-80. Avec la mise en place de politiques culturelles déconcentrées, l'arrivée d'animateurs professionnels et le nouvel intérêt porté aux cultures oubliées. De 1985 à 1995, environ 500 personnes sont formées par les foyers ruraux sur le conte, qui mêle mémoire collective et création. Je vais vous lire un extrait du livre des 70 ans sur le conte. Parce que le conte porte en lui des valeurs de tolérance, de respect, d'ouverture aux autres cultures. Parce qu'il permet un questionnement sur l'humanité et le vivre ensemble. Parce qu'il est universel et singulier, parce qu'il parle à chacun et à tous, nous pensons que ça vaut le coup de continuer cette aventure collective au croisement de la culture et de l'éducation populaire, tout comme le sont les foyers ruraux. Et alors, effectivement, la 29e édition des foyers ruraux aura lieu du 15 au 29 février 2020. Donc, Contes et Rencontres, 15-29 février 2020. Et la soirée d'ouverture aura lieu à Florac, à la Genette. Qu'on se le dise. Alors, une petite illustration sonore du conte. Je vais vous faire entendre une racontine de Sandy, qui racontait des contes pour les enfants il y a 2 ans à Barthas. et profitez bien de cette histoire. Donc Sandy, Félix.
Les racontines de Sandy. Des histoires pour les tout petits.
Il était une fois dans un pays, un petit garçon du nom de Félix. Tous les matins, comme tous les enfants de son pays, il prenait son petit cartable et suivait le chemin pour aller à l'école. Mais au bord du chemin, pas très loin de l'école, il y avait là un arbre. Un arbre pas comme tous les arbres. Cet arbre était un poirier. Et Félix adorait manger les poires. Si bien que chaque matin, il posait son cartable en bas de l'arbre et il grimpait et il mangeait des poires. Voilà qu'un matin, Félix est dans l'arbre en train de se régaler de poires quand il entend « Félix, Félix, je suis la sorcière Bistocker. Descends donc de l'arbre et apporte-moi une poire. » Oh, Félix, il avait bien entendu parler de cette sorcière. Il croyait que c'était qu'une légende. Et là, elle était en bas de l'arbre et elle lui réclamait une poire. Il avait un petit peu peur quand même. Alors il a attrapé une poire et il l'a jetée. « Tiens donc, attrape, sorcière !»« Je t'ai demandé de le descendre la poire, pas de me la jeter sur la tête. Allez, Félix, descends-moi donc une poire !» Félix ne sait pas trop quoi faire, mais la sorcière, elle insiste tellement qu'il descend une poire à la sorcière. Mais à peine est-il arrivé en bas qu'elle l'attrape et elle l'enferme dans un sac. « Ha 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 ha, je t'ai bien eu, je vais t'emmener à ma maison et je vais te manger dans ma grosse marmite. » Et voilà la sorcière qui part. La sorcière, elle n'est pas toute jeune et elle est un peu fatiguée. Au bout de quelques mètres, elle a bien de se reposer. Elle traîne le sac avec Félix, elle le pose à côté d'elle et elle s'assoit dans l'herbe. Très vite, elle ferme les yeux et elle s'endort. Et elle se met même à ronfler. À ce moment-là, Félix réussit à sortir du sac. À la place, il y glisse plein de cailloux. Il repart, il prend son petit cartable et il va à l'école comme si de rien n'était. Quand la sorcière se réveille d'un seul coup, elle voit à côté d'elle le sac et elle se souvient qu'elle a attrapé Félix. Elle est toute contente, elle l'attrape avec ses mains, mais il est lourd, elle a jamais... porter un sac aussi lourd, que se passe-t-il? Et elle traîne le sac jusqu'à chez elle. Quand elle arrive, elle avait déjà préparé le feu, la grosse marmite remplie d'eau, et elle s'approche pour verser le sac. Mais toutes les pierres éclaboussent et elle s'ébouillante. « Aïe, 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 aïe. Demain, je retourne là-bas et je vais me venger !» Le lendemain matin, comme tous les matins, Félix prend son petit cartable et s'arrête au bord du chemin, au pied du poirier. Il grimpe dans l'arbre et il commence à manger des belles et bonnes poires. Et voilà qu'il entend « Félix, je suis la sorcière Bistocker. Descends donc de l'arbre et apporte-moi une poire. » « Ah non !» lui dit Félix. « Non, non, non. Tu m'as déjà attrapé hier, tu ne m'attraperas pas aujourd'hui. » « Mais non, t'inquiète pas. Parole de sorcière, je te ferai aucun mal. » Et elle insiste, alors Félix lui fait confiance et il descend une poire à la sorcière. Mais à peine est-il arrivé en bas qu'elle l'attrape, elle l'enferme dans un sac. « Ha ha ha, tu m'as cru, parole de sorcière, tu m'as cru. Je vais te ramener chez moi et cette fois, je vais te manger. » Et elle le traîne. Mais elle est fatiguée, cette sorcière, et elle ne peut pas faire autrement que de se reposer au bout du chemin là-bas, juste à droite, à côté de la grande ferme. Et au moment où elle se met à ronfler, Félix, le très rusé, réussit à sortir du sac et il enferme à sa place le chien de la ferme. Et il repart, il prend son petit cartable et il va à l'école, comme si de rien n'était. Quand la sorcière ouvre les yeux, qu'elle voit le sac, elle est toute contente. « Je vais le manger cette fois, je vais à ma maison, allez !» Elle porte le sac, mais il bouge dans tous les sens. « Félix, arrête de bouger !» Et elle n'arrive pas à soulever le sac et elle s'énerve et... elle l'ouvre. Et voilà le chien qui sort et qui lui mord le derrière. Aïe, 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 aïe. Et elle se traîne comme elle peut jusqu'à chez elle. Elle a du mal à s'endormir, elle a mal de partout. Et on raconte que le lendemain. Elle est retournée au même endroit et Félix était au même endroit, dans l'arbre, en train de manger une poire. On raconte pas comment, mais elle a encore réussi à l'attraper. Et cette fois, elle l'a ramenée jusqu'à chez elle. Et quand elle est rentrée dans la maison et qu'elle a ouvert le sac pour le jeter dans la marmite, Félix, qui était très rusé, a réussi à s'échapper et s'est mis à courir autour de la grande table. Et il est monté sur le tabouret, il est monté sur la grande chaise, il est monté sur la table et il a couru, il est monté sur le hall de la cheminée. Mais la vieille sorcière, elle est montée derrière lui, sur la chaise, sur le tabouret, mais sur la table. Elle a dégringolé dans la grosse marmite d'eau bouillante. Et là, elle a disparu d'un seul coup. Plus jamais personne n'a entendu parler d'elle et plus jamais personne ne l'a vue. Félix, il a raconté cette histoire à tous ses amis de l'école. Et il leur a dit aussi que s'ils voulaient manger des belles et bonnes poires, qu'ils n'hésitent surtout pas à venir dans son poirier, au bord du chemin pour aller à l'école. Ils ne craignent plus rien, la sorcière Bistocker, elle n'est plus là.
Pour terminer, je voudrais vous livrer quelques réflexions à propos de l'éducation populaire actuellement. Il est écrit dans le livre des 70 ans, « Tout ce que font les foyers ruraux relève de l'éducation populaire ». Bon, certes, mais on peut envisager les activités proposées par les foyers ruraux sous deux aspects. D'abord, elles permettent de combattre l'individualisme, le repli sur soi, elles développent la solidarité et de nouvelles compétences. Mais elles sont aussi des activités de consommation. Alors, la question fondamentale, l'éducation populaire est-elle politique ? Politique au sens large, hein, pas politique politicienne, évidemment. Politique, la vie de la cité. Elle se veut un moyen pour changer la société. En faisant de la zumba ou de la vannerie, on discute, on apprend, on réfléchit. Ainsi que le dit le livre déjà cité, en elle-même, l'éducation populaire n'est rien. Elle résulte des actions des individus qui s'en réclament. Plus généralement, seuls les individus peuvent faire de la politique. Alors, j'ai retrouvé ailleurs cette idée, exprimée d'une manière nettement plus radicale. L'éducation populaire n'existe pas en soi. C'est un processus qui peut se retrouver dans des lieux très divers, ou au contraire, être absent de lieux qui pourtant s'en réclament. Elle consiste, cette éducation populaire, à décrypter les rapports de domination, à prendre conscience de la place que l'on occupe dans la société, à apprendre à se constituer collectivement en contre-pouvoir, à expérimenter sa capacité à agir. Donc, ceci, c'est plutôt du domaine du courant le plus radical de l'éducation populaire. Chacun fait comme il veut. Le contexte a beaucoup changé depuis 20 et même 50 ans. Mais si j'ai insisté sur l'histoire et les valeurs de l'éducation populaire et des foyers ruraux, c'est qu'elles constituent toujours le socle de la vie des foyers. L'engagement n'a pas disparu, ainsi que l'écrit toujours ce fameux livre « Ressources des 70 ans des foyers ruraux », une activité n'est pas nécessairement bonne ou mauvaise par elle-même. C'est parfois la manière de la mettre en place et de la conduire qui lui donne son sens. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc cette réflexion va me permettre de faire la transition avec les émissions suivantes. Fini la théorie, je vous parlerai du foyer rural de Florac, avec, pour commencer, un entretien avec celle qui a été, parmi d'autres, à l'origine de la création de notre foyer rural. Je vous laisse deviner qui c'est. À bientôt!
Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté.
cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca camino y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie en la talla. Se terminaron para mí toda la farra, mi cuerpo enfermo no resiste más.